goût du monde, Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue dans Le Goût du Monde, votre émission sur RFI qui parle de goût, de cuisine, de partage et de transmission. Vous savez quoi ? Nous pensons bien à vous tous depuis que le virus s'est imposé à nos vies et les a bousculés. Oui, à vous tous, artisans, commerçants, restaurateurs qui, du jour au lendemain, avaient dû fermer sans trop savoir pour combien de temps. L'Europe est en train de s'ouvrir au monde à nouveau. Bientôt, tous les restaurants de France pourront accueillir leurs clients, même différemment. La fin d'une période très difficile, mais pas partout. Bien des pays sont encore confinés et s'inquiètent vivement pour demain. Au Gabon, par exemple. C'est encore la confusion. Les consignes adressées aux restaurateurs sont contradictoires, difficiles de savoir qui peut quoi. Un stress supplémentaire dont témoigne le chef Merlin Cédric Ella du restaurant Ella à Libreville. Il est sur la commune d'Akunda, au quartier Charcot, dans Angoundje.
La situation actuelle est difficile à vivre. Déjà, il faut savoir que tous les restaurateurs ne font pas la même chose. Tous les établissements ne proposent pas les mêmes services. Ce qui fait que le secteur lui-même, globalement, il est en pleine difficulté. Déjà, les plats emportés, tantôt le gouvernement accepte que nous fassions des plats emportés, tantôt on demande de tout fermer. Donc, on ne sait plus où se situer. Ce qui fait qu'il y a des restaurateurs qui font des plats emportés qui ressemblent un peu à un système informel, en fait. C'est comme s'ils le faisaient clandestinement, on voit un peu. On ne peut pas se dire qu'il y a quelque chose de légal là-dessus. Moi, j'ai dû fermer mon établissement une fois la mesure gouvernementale prise. Je suis déjà à 3 mois sans activité. Et ces 3 mois sans activité restent toujours 3 mois de charge parce que mon loyer, il faut que je le paye. Les salariés doivent toujours avoir leur dû. Et c'est compliqué, c'est vraiment compliqué.
Qu'est-ce que vous êtes dit ?
Quand j'ai su qu'il fallait fermer suite à la situation, à la crise sanitaire du Covid-19, c'était vraiment comme si j'avais reçu un gros coup de massue. Parce que j'ai ouvert mon restaurant le 20 janvier. Imaginez un peu ce que ça fait, un établissement. Au bout d'un mois, on vous demande de le fermer. C'est difficile à vivre parce qu'il y a des engagements qui sont là, il y a des fournisseurs qui sont là, il y a tout un tas de choses qui sont là autour. On se demande comment on va faire. Et le plus con pour moi, c'est que j'ai dû tout laisser. Vraiment, j'ai tout laissé. J'ai quitté mon emploi pour ça. C'est comme si je me retrouvais à la rue parce que je fais un investissement qui est fermé. On se demande, est-ce qu'il faut être entrepreneur ? Est-ce qu'il faut vraiment investir ? Ou encore, est-ce que c'était la bonne période ?
Est-ce qu'on a le droit, au Gabon aujourd'hui, de faire du service traiteur, d'aller cuisiner chez les gens ? Parce que, est-ce que ce sont des pistes que vous avez étudiées, abordées, envisagées, justement pour ne pas être complètement à l'arrêt ?
Alors, pour ce qui concerne le traiteur, par exemple, aller faire le chef à domicile, aller cuisiner chez les gens, déjà, les déplacements non essentiels sont interdits. Et vous savez que pendant cette pandémie, le Covid, il est invisible. Donc, nous, en tant que restaurateurs, la difficulté qu'on éprouve encore, c'est qu'on ne peut même plus faire le service traiteur à domicile chez les gens parce que les particuliers craignent, les gens ont peur, en fait. Ils ne savent pas qui rentre dans leur maison. Il y a des familles, tout ça. Donc, ce qui fait que nous sommes encore bloqués parce qu'on ne peut même pas vendre nos services chez des particuliers. Donc, nos restaurants sont fermés, nos établissements sont fermés. Tout est fermé partout. Je ne sais pas vraiment où situer l'État gabonais par rapport à ça. Parce que quand on lit un communiqué, on dit qu'on a le droit d'emporter les plats pour ne pas manger sur place. On lit encore un autre communiqué, toujours du ministère de l'Intérieur, qui dit de tout fermer. Donc pour moi, il y a un réel souci au Gabon par rapport à cette crise, en fait. C'est la communication. Il y a un manque de communication. C'est d'abord ça, le départ. On ne nous dit rien. Au Gabon, nous avons un ministère de tutelle qui est là, qui s'occupe du tourisme. En même temps, ce ministère est tellement inondé parce qu'il s'occupe du commerce, il s'occupe des petites et moyennes entreprises. Donc, c'est un seul ministère qui gère, je veux dire quoi, peut-être 4 départements, mais c'est trop. C'est trop. Soit on est dans le tourisme ou on ne l'est pas. Vous voyez un peu? Il y a d'abord ce problème qui est là ou qui fait que le ministère de tutelle ne nous communique pas, ils ne disent rien. Nous sommes des acteurs de la profession, nous sommes des professionnels. Pourquoi ne pas travailler en télétravail avec le ministère de tutelle pour dire que voici ce que nous on propose par rapport à la situation de Covid. Voici la démarche à suivre pour ouvrir progressivement nos établissements. Pour moi, d'abord, ce qui m'écœure d'abord, c'est le manque de communication dans un premier temps. C'est pas le temps d'être au chômage. Oui, nous sommes au chômage, on l'accepte, on n'a pas le choix parce que faut lutter contre le Covid, c'est la meilleure façon. Oui, mais vous nous dites quoi ? Le ministère ne nous dit rien du tout. C'est là mon problème, c'est ce qui me dérange le plus.
Est-ce que vous avez une communauté de restaurateurs, de cuisiniers qui pourraient justement faire porter la voix auprès de l'État et du gouvernement ?
Oui, alors le Gabon a une association qui est l'association des cuisiniers gabonais. Nous avons proposé un protocole au ministère du tourisme. Il s'avère que nos courriers, on ne sait pas s'ils aboutissent ou pas.
Pour l'instant, les mesures gouvernementales, est-ce qu'il y a une date de fin?
Non, il n'y a pas une date de fin. On ne sait pas. Et je reviens encore là-dessus sur le problème de la communication, parce que tout passe par là, en fait. Si on ne nous dit rien, on ne saura toujours rien.
Oui, bien sûr.
On ne nous situe pas déjà s'il faut emporter des plats ou pas. On fait le tri, en fait. Nous, les Gabonais, on prend la décision qui nous arrange. Donc, tantôt on a entendu d'une oreille qu'on peut faire des plats emportés, tantôt on a entendu qu'on ferme. Donc, on se concentre juste ce qu'on a d'abord dit qu'on peut faire emporter. Donc, on choisit. Et du coup, ça crée vraiment un désordre, en fait. Et ça déstabilise les gens. Déjà, nous sommes sur une crise qui va faire en sorte que beaucoup de familles puissent perdre leur emploi parce que déjà, on ne connaît pas la reprise. Il y aura beaucoup de licenciements. Moi, en tant que président de l'Association des cuisiniers gabonais, il y a des informations qui me remontent où il y a certains membres qui ont déjà reçu des lettres de non-reprise. Donc, c'est-à-dire que même avant que le travail ne reprenne, ils se font même déjà licencier. Déjà, est-ce que ça, c'est d'abord légal? Est-ce que c'est normal? Moi, je sais pas, mais je pense quand même que les choses ne se passent pas comme ça. On a aussi un grand risque sur le tourisme qui est là, qui va prendre un coup. Le tourisme au Gabon, il est faible, il est quasiment méconnu. Il apporte quoi? C'est près de 3% au PIB. Alors, donc, comment fait un secteur qui tire vers le bas? On est encore en train de clouer comme ça. Franchement, c'est pas bon. Pourquoi on ne met pas en place des protocoles, l'ouverture, la distanciation? On peut faire ça. Pourquoi au Gabon, on ne le fait pas?
Et dans les pays voisins, ça se passe comment?
Alors, dans les pays voisins, tout a commencé à ouvrir. Déjà, notamment au Cameroun, ils ont déconfiné. Les bars et les restaurants sont ouverts. Nos pays voisins, je pense que, je ne sais pas s'ils s'organisent mieux que nous, je ne sais pas, je ne vis pas là-bas, mais je pense qu'ils ont commencé à comprendre que cette maladie, ce n'est pas du jour au lendemain qu'elle va disparaître. On doit apprendre à vivre avec le virus et prendre des précautions. Si on décide de tout fermer comme ça, de bloquer la machine économique, mais après, il y aurait des répercussions. Après, en ce moment, l'État dépense beaucoup d'argent pour lutter contre le Covid. Ça, c'est une très bonne chose. Mais après cette crise-là, on va se retrouver avec une crise financière aussi, une crise économique, parce qu'il n'y aurait plus d'argent. L'économie ne tourne pas et tout est quasiment fermé. Je pense qu'il va y avoir des répercussions plus tard. Pas maintenant, mais plus tard, il y aura des répercussions. Mon problème, c'est la communication, Clément. C'est la communication. On ne communique pas. C'est ça le gros souci.
Merlin est là du restaurant Léla, à Libreville, au Gabon. Merci, Merlin. À Kinshasa, en RDC, la nouvelle est tombée le week-end dernier. Le confinement a été prolongé de 2 semaines encore.
Ça va pas trop, ils ont rajouté 2 semaines chez nous.
Les restaurants sont fermés depuis la mi-mars. Dans le quartier des affaires, c'est rideau tiré. C'est très, très difficile, explique Christian Yumbi. Il est le chef du restaurant Arôme à Kinshasa.
Dans les quartiers d'affaires, c'est total confinement. Aller à la cité, c'est comme s'il n'y avait rien. Ce qui se passe aussi, c'est qu'à la cité, il n'y a pas moyen qu'il fasse autrement parce que les gens vivent les uns dans les autres. Donc, ce n'est même pas possible de faire quelque chose. Et donc, nous, on est profondément désespérés aujourd'hui parce qu'il était question d'ouvrir les établissements, même il était question de déconfiner en fait tous les pays. Kinshasa aussi, mais c'est parti encore pour 2 semaines. Ce qu'on n'arrive pas à s'expliquer pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cas, il n'y a pas plus de cas qu'avant. Et comme indépendant, on a du mal à comprendre que pour 100 morts qu'on doit encore confiner. Ça va faire 3 mois qu'on est totalement confiné et ça devient très, très difficile pour nos petites sociétés. Comme indépendant, en fait, moi, personnellement, j'ai 30 personnes qui travaillent pour moi, pour un restaurant. On a des loyers à payer, pendant 3 mois de loyers à payer. On a tout ce qui est charge, on a payé les salaires. Tous nos personnels survivent en fait, avec leurs salaires. Et donc, si nous, on ne les paye pas et ils sont totalement bloqués, mais il n'y a pas d'aide du tout, 0. Et rien du tout. Donc, on se demande comment est-ce qu'on va survivre à tout ça. Ça devient très compliqué. Tout est totalement bloqué et on se demande si on n'aura pas plus de morts après les déconfinements parce que tout le monde risque de tomber en faillite. Il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de faillites parce qu'on ne va pas tenir très longtemps comme ça. Déjà, on ne tient plus. On tenait déjà difficilement parce qu'avant ça, il y avait des problèmes économiques liés à la politique. On espérait que tout va se relancer. On est encore parti pour cette histoire. Et là, tout est bloqué pour le moment. Tout est bloqué. À Kinshasa, donc, moi, j'ai essayé de faire des plats emportés. Mais bon, mettre déjà la logistique par rapport à ça, c'est compliqué. Et puis, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui cuisinaient chez eux parce qu'ils, comme ils n'ont plus rien à faire, ils essaient de réduire leurs dépenses et donc ils font chez eux. Ce que moi, j'ai fait, c'est d'essayer de donner des cours à domicile ou à essayer de trouver quelques autres activités ou des buffets ou des gens qui veulent qu'un chef cuisine chez eux. Mais même avec tout ça, la demande est tellement minimum parce que tout le monde est dans la même situation que nous. Donc, si les gens n'ont plus de revenus, Donc, ils ne savent plus dépenser. Et s'ils ne savent plus dépenser, ils ne savent plus acheter chez nous. Et là où on est totalement bloqué. En fait. Ce que moi, je voudrais dire, c'est juste encourager les indépendants, tous les indépendants comme nous, à tenir et à être positifs et à attendre ce que les choses puissent aller mieux. C'est la seule chose qu'on peut faire pour le moment. Ne pas baisser les bras. Et au niveau des politiques, si on peut essayer de trouver quelques systèmes pour aider les indépendants, parce que dans toute l'Afrique, quand il y a les politiques qui s'expriment, c'est toujours aider les indépendants, mais dans la pratique, c'est pas ça. Et donc, on espère peut-être avoir quelque chose de politique pour essayer d'aider les indépendants. C'est tout ce qu'on peut espérer. Quelque chose de concret, parce que c'est bien d'avoir des discours politiques, mais s'il n'y a rien qui suit, c'est difficile. Aujourd'hui, on est tous abattus, en fait. On est presque désespérés parce qu'on avait fait justement la réunion de tous les indépendants et de tous les restaurateurs pour essayer de trouver des propositions à l'ouverture. On a fait des propositions au niveau du gouvernement et on attendait à ce qu'on soit déconfiné. Malheureusement, c'est pas ça qui s'est passé aujourd'hui. La réunion qu'on a fait, on a fait avec la Fédération des entreprises du Congo pour le déconfinement. On a suivi le modèle qui se passait un peu partout au monde pour essayer de rassurer l'État à notre niveau. On va essayer de prendre quelques mesures comme ça s'il y a déconfinement. On va appliquer ces mesures-là. On met en place tout ce qui est nécessaire pour protéger les clients et de garantir au niveau de l'État s'ils peuvent nous suivre dans le déconfinement. Donc, c'était ça notre but, le but de la réunion. Et c'est ce qu'on a fait. Et puis, aujourd'hui, on a appris que tout va rester fermé.
Christian Yumbi, chef du restaurant Arôme à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Au Sénégal et en Côte d'Ivoire, où l'état d'urgence avait été décrété en mars, restaurants et maquis ont commencé à rouvrir. Georges Abel s'est rendu au 333 à Dakar, où il a rencontré Lydie Dougrou, la promotrice du restaurant, en plein préparatif.
Bon, ici, je pense que c'est suffisant. On rajoute plus de verre.
Cette période a été très difficile parce qu'il y a eu un enchaînement en fait. Il y a eu le jeûne chrétien qui a commencé fin février et après il y a eu la fermeture des restaurants au mois de mars et après bon, il y a eu le jeûne musulman. Donc ça a été une succession de difficultés. C'est vrai que le chiffre d'affaires a drastiquement chuté. On n'attend plus que de voir comment ça va se comporter. Mais ça a été une période très 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 difficile. Et je me suis inquiétée pour moi, mais je me suis plus inquiétée pour mon personnel qui, du jour au lendemain, devait rester à la maison. Ça a été très, très difficile. Mais en même temps, ça a été un moment que j'ai mis à profit, cette pause imposée par le Covid, pour repenser mon restaurant. Je me suis renseignée, je me suis inspirée de plusieurs émissions de télé sur le net. Et donc, j'ai repensé complètement la décoration du restaurant, proposé des choses différentes à mes clients quand on va rouvrir. Donc aujourd'hui, le restaurant 333, on a entrepris des travaux d'embellissement. Toute la décoration a été refaite, le menu a évolué. Donc c'était un moment assez difficile, mais on a quand même pu, grâce à nos partenaires, maintenir un minimum d'activité avec la livraison à domicile.
Comment ça se passe aujourd'hui? Comment vous envisagez cette réouverture du restaurant 333?
Je suis optimiste, en fait. Je suis optimiste. Le fait d'avoir entrepris des travaux dans l'embellissement, d'avoir repensé tout le menu, je suis reboostée. Je me dis que nous sommes prêts pour accueillir les clients, mais en respectant toutes les mesures, on mettra tout ce qui est possible à la disposition de nos clients pour les protéger. C'est vrai que on ne mettait plus les plats du jour parce que bon, on faisait un peu au cas par cas. Donc, quand un client a envie de manger un truc, il nous appelle. Mais ça a été très dur parce que bon, on a eu aussi le carême musulman. Donc, moi, j'appelle ça la double peine. Donc, bon, tous ces moments-là sont derrière nous aujourd'hui et j'ai envie d'être positive et me dire que on est prêt à recevoir nos clients dans la mesure du possible. On attend de voir ce que l'avenir nous réserve en fait.
Vous avez des inquiétudes particulières?
J'ai des inquiétudes parce que aujourd'hui on ne sait pas comment le client va se comporter. C'est pas parce qu'on a le droit d'ouvrir le restaurant que les clients vont affluer. Est-ce qu'ils vont pas changer leur comportement au niveau de la consommation? Est-ce qu'ils vont pas changer? Donc, on ne sait pas, on est inquiet. C'est vrai que nous, on a fait ce qui est en notre pouvoir, c'est-à-dire que j'ai complètement tout repensé. Les travaux d'embellissement sont là. Il y aura des mesures qu'on va respecter. Mais est-ce que le client est prêt à sortir, à venir dans les restaurants? Mais je reste optimiste parce que quand je vois en Europe, je vois que les clients sont au rendez-vous dans des restaurants. Je me dis que ça peut être le cas ici. Donc, on espère vraiment que les clients soient au rendez-vous, qu'ils aient envie de venir manger dans les restaurants, qu'ils aient envie de sortir, parce que je me dis, le fait de rester chez eux, c'est pas non plus évident. Donc, on espère que les clients seront au rendez-vous. En tout cas, nous sommes prêts pour les accueillir, mais on sait pas trop comment ça va se passer. Moi, mes inquiétudes, c'est aussi au niveau du Covid lui-même, parce que je me dis, est-ce que la pandémie est derrière nous? Est-ce qu'on ne va pas reconfiner? Et ça, c'est ma principale inquiétude.
Quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour pouvoir respecter les mesures de distanciation et autres?
Déjà, au niveau des places assises, normalement dans le restaurant, on a une quarantaine de places assises. Et là, je pense qu'on va tabler sur 15 places assises parce qu'il y aura à peu près un mètre et demi entre les tables. Donc déjà, ça nous fera moins de places assises. On a le gel hydroalcoolique à l'entrée, qui sera obligatoire. Et pour nettoyer les mains, le port du masque, il est obligatoire. Mais ça, il est obligatoire dans tout le Sénégal, mais on va l'exiger, et que ce soit pour le personnel, que ce soit pour les clients.
On voit qu'il y a, même à l'entrée, il y a une pelouse maintenant. Parle-nous un peu plus de ces travaux.
En fait, j'avais ça quelque part caché un peu dans ma tête, mais avec cette histoire de Covid, j'ai été obligée de me lancer. Ce n'était pas évident parce que le portefeuille ne suit pas forcément, mais c'est bon pour le moral aussi de voir que tout le restaurant a été retapé. Et aujourd'hui, je suis contente de l'avoir fait parce que je suis complètement enthousiaste à l'idée de rouvrir le lundi. Vous pourrez déguster la sauce copée avec le plakali, le poulet braisé, avec la tieke, avec la loco, tout ça, vous pourrez.
Yeah, 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 yeah. Le goût du monde. Yeah, 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 yeah. Clémence de Navi.
J'ancrais l'espérance aux racines de ma vie. Planter des flambeaux à la lisière des nuits.
'Solidarité' de M avec Ibrahim Malouf, Youssou N'Dour, Sidiki Diakité, Seyou George. Vous nous rejoignez, vous écoutez RFI, vous écoutez Le Goût du Monde.
C'est un métier d'être maraîcher, hein, je peux vous garantir. Parce que c'est pas ce qu'on fait tous les jours. D'habitude, on donne des assiettes, on sert des vins, et là, on pèse des carottes et des asperges. On s'habitue vite, mais au début, c'est 2 asperges, 2 carottes, 3 tomates, s'il vous plaît. Ouh là là, attendez, faut que je mette mes petits prix à la main. C'est un métier différent.
En France, plats à emporter, traiteurs, épiceries provisoires, depuis le début du déconfinement, restaurants et cafés se réinventent, se réorganisent.
Là, vous avez les entrées, les plats, les desserts. Il y a les classiques de la maison. Vous pouvez avoir une terrine. Le dessert, c'est le grand classique de la maison, le riz au lait et les petits desserts. Et après, on a aussi une petite soupe. Là, en ce moment, c'est un glacé de lait, mais sinon, le classique de la maison, c'est une soupe de parmesan. Grand classique de la maison.
On dirait qu'il y a eu la guerre ici.
Il y a eu.
Le chef, il est là, Stéphane Jégot, le chef de l'Ami Jean, rue Mallard, dans le 7e arrondissement de Paris.
On va essayer de faire que ce soit moins la guerre. Je peux te dire que la guerre, on en a un peu marre. Non, là, l'Ami Jean va complètement changer. Là. On va profiter de ce malheur pour évoluer. Déjà, d'apporter autre chose, se diversifier, parce qu'on voit très bien que c'est uniquement que sur le contexte gastronomique, ça va être un peu compliqué. Donc on va apporter de la même gastronomie, mais en se diversifiant. Voilà, ça va être déjà un point majeur. Donc là, c'est vrai que le maraîchage qui a été mis en place avec nos producteurs pour donner accès aux gens du quartier, des produits d'une qualité extrême, ça c'est déjà important. Et on a vu que ça rapprochait les gens du quartier, en plus que ça rapprochait vraiment les gens. Ça c'est extrêmement important. Là, on est en train de monter une épicerie. On est en train d'apporter une autre façon de voir la restauration. Déjà, d'une, on n'a rien inventé parce que l'Ami Jean, à la base, était ça. C'était un regroupement de plusieurs activités où ils vendaient du charbon, du pain, du vin, des journaux. Tu buvais ton coude rouge au bar, tu mangeais ton casse-croûte. Et je pense que c'est aussi intéressant de revenir aux sources. Je me suis aperçu que le fait d'être peut-être plus posé, de courir moins dans tous les sens et de ne pas hurler partout, etc. Les gens du quartier se sont dit, mince, il est moins cinglé qu'il en a l'air. Et du coup, on s'est retrouvés, il y a une approche, une proximité. Le maraîchage fait en sorte que les petites dames du quartier viennent. Et les gens ne sont pas dupes, hein. La qualité, ça reste la qualité. Hein. En plus des prix, on est moins cher en plus que les autres. Ce n'est pas parce qu'on veut tirer les prix, non, parce qu'on pratique le prix juste. On gagne notre vie et voilà, les producteurs sont payés correctement. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant, c'est de trouver des solutions qui sont pérennes et non pas des rustines. Les gens, si tu veux, se sont ouverts à nous d'une façon extrêmement amicale et d'une façon extrêmement curieuse, mais sur la convivialité, la gastronomie, le plaisir. La gastronomie dans un sens où, ah tiens, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on va le faire? Alors que beaucoup de personnes qui sont actuellement devenues nos clients passaient à côté. Parce qu'il y avait des choses qui les gênaient et c'était certainement le brouhaha, la cohue, le stress certainement ambiant également. Et puis à un moment, voilà, on était nous dans une roue qui tourne depuis 17 ans, où plein le midi, plein le soir, à clientèle internationale, voilà. Et peut-être qu'on a oublié des choses essentielles. Dans cette crise, ces choses essentielles, on les a retrouvées et ça nous fait vraiment plaisir. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va vraiment extrêmement travailler. Donc là, tu vois, aujourd'hui, au lieu de sortir les terrasses et tout, j'ai préféré attendre pour vraiment être bien au point. On va prendre possession du trottoir, des places de livraison. Jeudi soir, on va faire un bistrot trottoir. On va se faire cet apéro dînatoire avec justement essentiellement sur les gens du quartier. Je pense que c'est quelque chose qui va être extrêmement intéressant parce que là, on va également se retrouver entre nous quelque part, mais pas entre nous bêtement, entre nous sur une ouverture. Et c'est ça qu'on veut justement. C'est ça qui a extrêmement changé. C'est que, voilà, ce bonjour, des gens qui, au contraire, je les comprends également parce que, au moment, quand tu passes ton temps à courir partout, à des fois, tu commences une phrase et tu la finis en hurlant au bout de la rue, c'est quelque chose, voilà, qui peut être dérangeant.
On vous a redécouvert aussi.
C'est surtout, je pense que c'est. On a toujours laissé le restaurant allumé. Voilà, quand j'étais là ouvert, les fenêtres ouvertes, etc. Dans ce côté drame, confinement, ce côté extrêmement anxiogène, eh ben, il y avait cette petite soupape là où les gens parlaient à travers la fenêtre, me voyaient cuisiner, on a cuisiné pour les hôpitaux, on a fait des choses, ah ouais c'est bien, et donc si tu veux, j'avais toujours cette effervescence, même au plus profond de cette crise, eh ben, il y avait toujours cette lumière allumée, et je me suis aperçu que cette lumière allumée, c'était un petit peu comme ce petit phare que tu attends, ce petit mot, ce petite blague, ce truc, et c'était vachement intéressant. Nous on a été très pris avec Ratiba et ma compagne parce que justement on a mené ce combat sur les assurances.
Stéphane Jégot a le premier lancé une pétition pour pousser les assurances à agir et à indemniser les entreprises, a demandé également la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sanitaire en raison de la pandémie.
Donc en même temps, on était aussi beaucoup présents parce qu'on a travaillé à la Mijan. On était là pour les gens, on était actifs. Moi, j'ai fait pas mal de télé, j'ai fait pas mal de plateaux, de radio. Donc du coup, les gens, ils aimaient bien, on t'a vu tout à l'heure. Et donc il y avait vraiment un lien qui s'est créé. Surtout que le combat qu'on a mené, on l'a mené pour tout le monde. Et on le mène encore pour tout le monde. Donc les gens, ils se sont pas dit, oh, c'est encore du nombrilisme, de restaurateurs qui veulent... Non, ça a été extrêmement perçu. C'est un combat pour tout le monde, pour le teinturier, le coiffeur, le cordonnier. Et les gens se sont identifiés à l'ensemble du combat qu'on a mené contre ces assurances qui n'ont pas proprement dit jouer le jeu, qui ne jouent pas le jeu, ce qu'il faut être clair. Et les gens se sont identifiés à ça. Et non pas dire encore, ah, tiens, c'est encore un chef qui veut se valoriser, etc. Et ça, ça a été extrêmement positif parce que c'était la réalité. Et c'est, pour moi, c'est extrêmement important de montrer la réalité, non pas de montrer quelque chose de faussé. Dès le départ, on a initié le 13 mars avec Antibas. Ça a été pour les petites, moyennes entreprises de tous bords confondus. Teinturier, pressing, papeterie, crêperie, hôtel, 3 étoiles Michelin. Parce que tout le monde est dans la même barque. Toutes les pertes d'exploitation, elles sont là. Le drame, il est là. Ça n'a jamais été sur un truc corporatiste. Ça n'a jamais été sur l'individu proprement dit. Ça a été vraiment sur l'ensemble des professions. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre.
On est le 12 mars. Le président de la République annonce que tous les commerces vont devoir fermer et pour une période qu'on ignore encore. Comment est-ce que vous vous sentez ce soir-là et comment ça se passe ?
Le 12 mars, nous, on avait déjà plus ou moins anticipé. Peut-être qu'on était à l'affût de certaines choses. Le 13 mars, on avait commencé à initier ce combat contre les assurances. Et le 14 mars, on nous fait fermer en 4 heures. Donc nous, la façon qu'on l'a prise là, ça a été brutal, mais en même temps, mon frigo était quasiment vide. On n'a pas la source infuse, on n'a pas de boule de cristal. Mais à force de regarder un peu tout ça, à force de titiller tout ça, on sentait le truc arriver. Je pense que la décision qui a été prise de fermer en 4 heures, c'était une décision uniquement politique. Parce que le lendemain, il y avait les élections. Et ils se sont dit, si on laisse passer ce week-end par rapport à ce qui est en train d'arriver, on va nous accuser d'un drame. Et je pense qu'ils ont dû jouer la carte plus politique qui veut plaire, plus que politique sensée. Et on a fermé, c'est vrai qu'en 4 heures, ça a été assez incroyable. C'était dramatique. Et en plus, on s'en a d'autant plus aperçu qu'en ayant initié ces papiers, ce papier « battons-nous », etc. On s'est retrouvé le lendemain avec des dizaines, le surlendemain, des centaines de messages. Parce que, les gens se sont retrouvés à accrocher, il fallait s'accrocher à quelque chose, et on s'est retrouvé avec des centaines de messages. De l'étoilé à la crêperie, à la brasserie. Et c'est pour ça que on est resté actif, parce que c'est pas qu'on avait une réponse et rien, c'est que c'est fait comme ça. Donc ça a servi que de tout ça, ne pas que les assurances s'endorment et que nous on s'endorme justement et qu'on soit étouffé par la masse qui nous était tombée dessus. Donc ça a servi à beaucoup de choses.
Vous avez sans doute été un phare pour les restaurateurs qui ont pu prendre aussi part à ce combat. Il y a beaucoup de pays dans lesquels les restaurants ne vont pas rouvrir encore, dans lesquels nous sommes encore au cœur de la crise sanitaire. Pour vous, cela a été un long processus de penser à la manière dont vous alliez rouvrir. Comment est-ce que vous vous êtes dit que la Mijan d'avant, il fallait le réinventer ?
C'est toujours pareil, c'est avec une longue réflexion. Comment est-ce que nous devons réouvrir ? Mais on ne va pas le faire stupidement. Là, la Mijan a réouvert, même pas partiellement, a réouvert uniquement pour... tâter les choses, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Quand j'entends, la vente emportée, ça va bientôt faire 50% de mon chiffre, je dis non, à un moment, on ne peut pas dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. J'en parlais avec un ami à moi, qui est 2 étoiles Michelin, qui est à côté de chez moi, qui est un homme extraordinaire, qui fait, c'est pas de la vente emportée, c'est de l'orfèvre qu'il fait. Mais il sait pertinemment, même s'il fait du volume, mais que ce n'est pas ça qui va faire vivre, c'est les rustines. Donc à un moment, si tu veux, ce qui est extrêmement important à comprendre, c'est que c'est pas tout et n'importe quoi qu'il faut faire. On a tâté, on a regardé, on a vu que le maraîchage était extrêmement intéressant. Pas une rustine, mais quelque chose qui pouvait être pérenne.
De travailler main dans la main avec les producteurs.
Complètement, parce que quand on a commencé le maraîchage, parce qu'on a toujours depuis le départ donné une parole, mais mis des preuves. Ça a été d'emblée. Ma compagne, elle est très claire là-dessus, elle dit « si tu dois dire un mot, tu ne fais pas la trompe, c'est que derrière, tu as une preuve. » Voilà. Donc, c'est simple. Hein. On a ouvert mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà. On a vu, déjà, jeudi soir, que financièrement parlant, ça ne marchait pas. Parce que là, il y avait bah, tout, hein, les charges, etc., les salaires et tout. Donc on a vu que ça ne fonctionnait pas. Et le vendredi matin, j'avais Christophe Latour qui m'emmenait 50 kilos de légumes.
C'était déjà un producteur avec lequel vous travailliez avant.
Bien sûr, ça fait 15 ans que je travaille avec lui.
L'ancien de la Nigeria.
Et surtout, lui regroupe pas loin d'une petite centaine de producteurs. Dans le Lot-et-Garonne, c'est qu'il y a quelques années, il a décidé, justement, parce qu'ils étaient dans une situation extrêmement compliquée, bah, de prendre les choses en main et de dire, voilà, on va monter à Paris et on va réunir ce que vous faites, vous, vos compétences. Il y en a un qui fait du poireau, l'autre qui fait des agrumes, etc. Et on va le vendre à Paris. Et c'est comme ça, justement, qu'on s'est rencontrés. Et après, on a commencé à travailler, on est devenus amis, maintenant on est extrêmement proches, là. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, Christophe, je lui ai dit, bah voilà, on recommence, etc. Il a fait avec Amandine Chagnon.
C'est donc une autre chef, enfin.
Notre chef, voilà, qui est complètement, qui est celle qui a commencé d'ailleurs le maraîchage. Parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, hein. Moi, j'ai simplement regardé ce qui était possible. C'est même pas ça. C'est Sylvain de Trouvaille Terroir qui me dit, mais t'as qu'à les vendre tes légumes. J'ai dit, ok, mais bon. On a ouvert les fenêtres, on a mis, c'était sympa, joli, c'était magnifique. Ça sentait bon, les couleurs étaient sublimes. C'était vraiment sublime. Et là, les gens ont commencé à arriver. 2 heures après, plus de légumes. On avait vendu 50 kilos de légumes en claquant des doigts. Tellement ça a bien fonctionné que j'avais commencé à avoir des menaces sur mon téléphone de gens qui étaient du quartier, qui vendaient des légumes à différents endroits, parce que justement... Mais 3 heures après, je commençais déjà. Je dis, c'est signe que ça a dû fonctionner. Et donc, on n'a rien lâché, parce qu'on n'est pas homme à se laisser abattre sur certaines... voilà, quand les gens sont taquins, voilà. Et donc, du coup, j'ai appelé Christophe, j'ai dit, mardi, on recommence. Et là... On reprend, pareil, 50-60, parce qu'on savait pas trop quand même, on marchait sur les œufs. Hein. Et hop, rebelote, pareil. Et samedi, donc on fait mardi et samedi, et là, on prend 80-100 kilos de légumes. Et là, ça a été dinguerie. On avait de la queue jusqu'à plus loin, quasiment à la Seine. Et les gens, mais c'était ça qui était extrêmement merveilleux. Déjà d'une, les gens, ils respectaient la distance. Les gens, ils étaient là dans la convivialité. Et là, on a fait, mais je crois que c'était une des plus belles journées. Parce que il faisait beau, les gens étaient là. Mais ils avaient envie, justement, de se retrouver dans des dialogues. Mes gars, ils étaient là, ça tchatchait et tout. On retrouvait le peps de ce qu'on était. Mais pas dans la folie de hurler, dans la folie de moitié en transe. Parce que la gastronomie fait que... Non, pas du tout. On était vraiment dans l'échange de convivialité. Et ça, c'était merveilleux. Et du coup, on a continué. Et on a vu que c'était intéressant financièrement parlant. Après, la vente à emporter, c'est pour moi, je pense, une rustine.
Et quand est-ce que vous l'avez commencé, la vente à emporter ?
Au départ, on a commencé avant le maraîchage. C'est parce qu'on a commencé la vente à emporter qu'on s'est vu que ça coûtait trop cher qu'on a fait le maraîchage. Parce que justement, on avait ces légumes qui étaient destinés à la semaine suivante pour faire la vente à emporter. Mais malheureusement, on a stoppé, enfin, de façon qu'on a commencé, on l'a stoppé, on l'a redéfini, on l'a fait autrement. C'est le but de ces semaines qui viennent de passer, c'était pas vraiment de faire de l'argent, malgré qu'on n'est pas là pour perdre de l'argent, mais c'était vraiment de comprendre comment on va pouvoir réouvrir. On n'a jamais perdu d'argent parce qu'on a fait extrêmement attention, parce que même la première semaine qu'on a vu que c'était pas viable financièrement parlant, on a stoppé de suite. Donc on est resté sur un équilibre, on n'en a pas gagné, mais on n'en a pas perdu. Déjà, c'est capital, parce qu'actuellement, là, un centime est un centime. Donc, on a mis en place, là, différentes choses qui nous permettent de voir l'avenir avec, voilà, quelques petites étincelles et non pas de voir l'avenir dans un brouhaha, là. Donc, la mi-jean, ce qu'on a fait, parce que, bon, par rapport aux gestes barrières, par rapport à la distance des tables qui doivent avoir un mètre, etc. Donc, la configuration, il va y avoir une épicerie qui va séparer une partie de la salle, le coin maraîchage.
Parce que là, on y est dans votre restaurant. Alors, l'épicerie, elle sera...
Alors, l'épicerie, elle sera toute ici, tu vois.
D'accord.
Là, c'est l'épicerie. Mieux, là.
Donc, on rentrera dans le restaurant.
Quand sur tu vas rentrer, sur la gauche, tu auras tout le maraîchage. Qui, le matin, sera, voilà, dans sa fonction de vente de légumes, etc. Tu auras une cave à vin sur la table du milieu qui va séparer la salle. Mais au lieu de séparer la selle bêtement en mettant du plexiglas, eh ben on a décidé de monter les bouteilles. Il y a de la paille, etc. Il y aura ce côté vraiment chaleureux de se retrouver aux sources. Et on aura une table qui va être sous le lustre, cette fameuse table nappée, un peu gastronomique.
Donc après le bar.
Après le bar. Et ensuite, derrière le mur, vous avez une autre table qui est d'une table de 6, mais qui fera 4 à 5. Comme ça, ça me permet d'avoir une table derrière où j'aurai 3 couverts. Et on a 1 mètre. Là, on a 2 mètres. Et la table où on est, où il y avait des grandes banquettes, on les a enlevées. Le déclic s'est fait au moment où j'ai dit stop. J'ai dit au gars, j'ai dit à Maxime, au gars, j'ai dit maintenant, si on doit faire quelque chose, il faut aller au bout. Donc j'ai appelé un ami à moi, j'ai dit est-ce que tu peux me prendre mes banquettes le temps qu'on puisse regarder un peu où on va. Et du coup, on a enlevé les banquettes. Et là, ça s'est éclairci. Et je dis, mais on est bête, allons au bout. Et là, on a modifié la structure de la salle qui n'avait jamais bougé depuis 1931, c'est pour te dire. Hein. Ça, j'en suis quasiment sûr. Et là, ça nous a permis complètement de remodeler l'image de la salle. C'est-à-dire qu'on a, bien entendu, pas le nombre de couverts qu'on avait, mais on a surtout une chose, une atmosphère qui va être là.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Dire qu'on sera comme dans un village en fait où il y a pas très longtemps il y avait des tables dans les épiceries, on pouvait manger un morceau, s'acheter deux trois choses et repartir chez soi tranquillement.
C'est exactement ça. Mais oui, c'est ce que j'aime beaucoup moi, ce côté où tu vas arriver, tu vas manger, ah oh, mais tiens je vais prendre ma bouteille de vin, je vais passer le matin, et là le matin bah on va faire café, on va avant bon on était à un restaurant, maintenant voilà on va servir le café, le petit déj, on va voir le côté maraîcher, les gens vont arriver, vont acheter des légumes, vont boire le café, et ils vont pouvoir voilà, donc il va avoir une atmosphère de village au lieu d'avoir une atmosphère de bistrot gastronomique, mais qui restera dans une qualité extrême dans le monde gastronomique. Mais on aura une vente de légumes où ce sera de l'orfèvre, destinée justement à alimenter des personnes qui ne trouvaient pas ça aux alentours. C'est des légumes de producteurs, des produits d'éleveurs, des produits de maraîchage, des épiciers. Et ça, on va donner accès aux gens à ça. Et on va également à des choses que tu ne trouves pas dans le commerce, qui sont faites par moi, des épices qu'on a travaillées depuis des années. Et ça aussi, c'est intéressant, de s'ouvrir suffisamment pour créer... Ça fait longtemps que je voulais créer cette épicerie, etc. Avec ma collaboratrice, avec Laila, ça fait longtemps qu'on y pense et tout. Et ben, on a dit voilà, allez, allons-y. Donc là, il y aura les sachets de terre boulée, les petits sables maraîchers, il y aura les trucs de Sylvain, de Trouvailles Terroir, qui est là où c'est des vinaigres de malades, il y aura les petits cochons avec notre ami Eric Hospital au Pays Basque, il y aura également Francis, qui est un ami à moi, qui fait des petits pâtés, des petites rillettes de dingue qui est en Alsace. Donc, je vais m'appuyer sur une multitude de professionnels pour créer mon ambiance, pour créer ce que je veux de la Mijan dans le futur. Alors, pour l'instant, c'est des mots qu'on est en train de mettre sur des calculs, parce qu'il ne faut pas non plus faire tout et n'importe quoi. Parce que je ne suis pas non plus là à juste prôner la messe pour me retrouver en faillite demain. Non, pas du tout. Mais au lieu d'avoir 55 couverts, on aura 24 couverts. Et on va faire en sorte que le manque à gagner soit absorbé par ces différents pôles. Alors on sait que la vente de vin, ce n'est pas ça qui va nous faire, mais ce sera le côté aussi un petit peu folklorique. On sait que le maraîchage peut nous faire une belle ligne. Je suis en train de travailler sur différentes choses annexes qui sont intéressantes, toujours sur la même base, producteur, éleveur, maraîcher, et ça, épicier. Et donc, quelque part, c'est toutes ces petites ficelles qui vont faire le package qui va permettre de ne pas fermer. Alors là, c'est un gros travail. Ça fait déjà maintenant un bon mois que je travaille dessus. Et qu'on est en train de voir un petit peu comptablement parlant comment on va faire. Donc, c'est pas que c'est un rayon de soleil, mais c'est les étincelles. Et surtout, il faut. Le nerf de la guerre, c'est les clients. Malheureusement, s'il n'y a pas de clients, des belles paroles que je viens de dire, ça marchera pas. Donc, maintenant, c'est surtout ça. Savoir donner confiance aux gens, donner aux gens l'envie de revenir, donner aux gens le petit truc qui va se dire, bah tiens, allez, à la Mijan, on l'a pas oublié, mais il n'y a pas que la Mijan, il y a mes confrères et mes collaborateurs également. Donc c'est vraiment que l'osmose de la convivialité, du plaisir, de la bistronomie, de toute la... J'écoutais M. Condebord ce matin qui disait ce côté latin qu'on est, ce côté où on avait envie, partager, etc. Il a complètement raison. Il a créé la bistronomie parce que il aime les gens, on aime les gens, on aime d'avoir ce côté convivial, ce côté plaisir. Et bien justement, on attend maintenant, voilà, que les gens se remettent de ce vent de convivialité, de plaisir. Mais on les sent qu'ils ont envie, on les sent qu'ils ont... Voilà, maintenant, il faut qu'on se retrouve dans des conditions où on peut vraiment réouvrir. Parce que là, c'est vrai que on ouvre simplement si t'as une terrasse, c'est un peu ridicule. Voilà, il faut le prendre comme ça, il faut rester optimiste pour nos responsables. Voilà, donc on va pour l'instant aller petit à petit et on va voir vraiment comment est-ce qu'on va... orchestrer la totalité de ce qu'on vient d'évoquer, mais j'y crois vraiment à cette configuration-là. Après, on verra comment ça se passe. C'est pas antinomique ce qu'on est en train de faire. On n'est pas en train de révolutionner les choses. Je pense qu'on est simplement à revenir à la base. Voilà, c'est tout. Et quand tu vois qu'à Larro, là, Pierre Etchemaïté, qui également avait une épicerie, ils étaient une épicerie, un relais de chasse. Quand tu vois le magnifique restaurant qu'ils ont, c'est dans la Soule. Mais c'est un restaurant, mais c'est extraordinaire. Vous tapez Larro, vous regardez Pierre Etchemaïté, mais tellement le silence est fort que ça te fait mal aux oreilles. Vous imaginez à quel point c'est merveilleux. Mais c'est des endroits justement où ils ont évolué, mais ils ont gardé cette âme de convivialité, cette âme de plaisir. La Mijan, je suis 4e propriétaire. On n'a pas eu beaucoup de propriétaires depuis 1931. Ça n'a pas tourné beaucoup, hein. Et ça fait 17 ans, mais voilà, t'as encore de l'énergie sous le pied, t'as envie d'accélérer, parce que ce lieu permet justement de vivre, ce lieu permet d'avoir de l'émotion. Et je pense que c'est ce qu'on va redonner, mais différemment. Moi, j'imagine très bien, hier, j'étais avec mon compagnon à regarder un peu les étagères, là, de ce côté un peu brut, ce côté acier, là, et c'est ça qu'on va redonner, ce côté presque animal, avec des produits qui sont tellement chaleureux, des produits qui brillent tellement, qu'on va leur donner du plaisir.
À cette époque-ci de l'année, Stéphane Jégot, depuis 3 ans, on se voit pour parler du Refugee Food Festival. 3 anciens résidents du Refugee Food Festival ont ouvert depuis des restaurants. Est-ce que vous avez des nouvelles d'eux et comment vont-ils ?
Nabil, on était en lien assez régulièrement. Donc Nabil a suivi vraiment toute cette vague de faire à manger avec des hôpitaux, et Mohamed également, hein, tout à fait, parce que voilà, ils savent redonner ce qu'on leur a apporté. Nabil avait pris la vente à emporter, avait continué jusqu'au bout avec ses producteurs. Mohamed, pareil, était rentré dans ce mouvement de ce qu'on a fait à manger avec des hôpitaux, avec Guillaume Gomez et Stéphane Mégenès avait initié, qui était un mouvement magnifique, qui était vraiment, c'est une organisation. Vraiment, c'était extraordinaire. C'était complicité avec TikTok. C'est vraiment parfait. Et puis, c'était pas nourrir quelque part. C'était donner des petits moments de bonheur, des petits moments de soupape à toutes ces personnes qui nous ont permis de passer cette atrocité. C'est pour ça que c'était extrêmement agréable de participer à ça. Et Nabil et Mohamed ont participé avec grandeur à ça. Magda, elle va reprendre à Stalingrad. Et ça, je suis extrêmement content. C'est vrai qu'ils ont suivi, ils ont continué et ils continuent à apporter beaucoup de soleil. Et le Refugee Food Festival a fait plus que son office. Pendant toute cette crise-là, ils servaient pas loin de 600 à 700 couverts jour. Et il faut savoir que Marine et Louis ont mis un petite merveille au monde il y a quelques semaines en plus. Donc voilà, tout va bien. Dans cette tristesse, voilà, il y a quand même des petits moments de bonheur.
Pour tous ceux qui sont encore confinés, quel est le message que vous leur donneriez ?
Surtout de faire attention, de ne pas perdre cette vision d'eux-mêmes, de ne pas se décourager malgré que c'est difficile, mais surtout de ne pas perdre cette vision d'eux-mêmes, de ne pas perdre cet enthousiasme qu'on peut avoir, l'enthousiasme de donner du plaisir aux autres, donner du partage, et surtout de rester solidaire. Et une chose que j'insiste lourdement, quand on parlait des assurances, faites attention à ne pas vous faire embringuer avec des sirènes, car attaquer les assurances, il faut le faire, mais uniquement quand vous êtes sûr d'avoir les contrats pour, et non pas vous laisser embringuer parce qu'une personne brille, mais cette personne ne brille pas. Cette personne a décidé simplement de faire chevalier seul, pour rien, alors qu'il y a une multitude de personnes qui sont unies et qui sont dans la même situation, mais qui sont plus forts. Restez unis, soyez forts, et ne vous faites pas happer par les sirènes, car j'ai beaucoup d'appels là, ou restaurateurs qui me disent « Oui, mais mon avocat veut qu'on attaque, etc. » Non, faites attention. parce qu'on est déjà assez mal financièrement parlant. C'est déjà extrêmement compliqué, sans se faire en plus happer par des voyous qui voudront simplement nous dépecer. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'un message fort que je veux faire passer. C'est faites attention à vous, restez unis et solidaires. Vraiment, c'est quelque chose de l'exemple de l'unité, de la solidarité. C'est un regroupement qui reste ensemble, qui a été initié par Lantronchet, Stéphanie Leclerc et d'autres intervenants là, qui ont su justement amener cette unité, faire un travail administratif. Et eux, ils ont été un vrai phare par rapport à cette crise pour les restaurateurs. Je pense que garder l'unité de tout ce qu'on est extrêmement important. Et surtout, garder ce plaisir en tête de faire à manger, de partager, d'emmener cette gourmandise. Et pour une fois qu'on a un peu le temps, prenons-le.
Et de manière très pragmatique et à la lumière de votre expérience, Stéphane Jégot, quel conseil pourrait-on adresser aux restaurateurs qui sont encore confinés, bien observés avant de se lancer dans une diversification de leur activité?
Mais bien sûr, on doit regarder la configuration de notre établissement et regarder la configuration de nous-mêmes. Ça, c'est très important. Et on doit rester solidaire tout ce qu'on est. Mais il n'y a que nous qui savons si notre établissement est a possibilité de faire de la vente emportée, si notre établissement a possibilité de faire du maraîchage, la possibilité de faire de l'épicerie. Je pense qu'au cœur de nous-mêmes, il n'y a que nous qui savons comment notre établissement peut fonctionner. Il n'y a que nous qui savons si on est capable de le faire. Parce que si c'est pour faire tout et n'importe quoi et se retrouver au final ruiné par une mauvaise décision, déjà la situation est tellement compliquée, vaut mieux ne rien faire, baisser la tête et attendre que ça se passe et se regonfler d'énergie pour tout déchirer après, que de vouloir faire des bouts de rustine qui vont coûter une fortune au final. Et ça, je pense que ça, c'est capital à comprendre. Et je répète, ces sirènes-là qu'on peut entendre médiatiquement parlant ou sur les réseaux sociaux, je pense que ça, on doit les zapper. On doit vraiment se recentrer. Il y a des gens qui sont là pour donner le phare, ces personnes ou ces groupes de personnes qui sont extrêmement importants à regarder, justement. Et non pas, voilà, le blabla des réseaux sociaux actuellement, il n'y a rien de pire. Nous, on le voit et on l'a vu quand le 14, les gens qui font les malins maintenant sur les réseaux sociaux étaient en pleurs, il a fallu les sortir de quelque part, d'éviter qu'ils se suicident. Quand on les voit faire les malins maintenant, on se dit, stop, calmez-vous, parce que c'est du n'importe quoi. Donc je pense que là, faisons attention à nous-mêmes, faisons attention justement à nous-mêmes dans l'ensemble de ce qu'on est, c'est-à-dire professionnels, indépendants, restons solidaires. Donc pour l'instant, la vente emportée, elle est là, ça va se diluer tranquillement, on va mettre une restauration en place, on va faire un bistrot trottoir, on va trouver des solutions jusqu'à ce qu'on revienne dans une certaine normalité. Et je ne sais pas honnêtement quand ça pourra revenir, mais nous en tout cas jusqu'au 18 août, on va rester dans cette configuration-là. Ça va se faire tranquillement, je pense qu'il ne faut rien brusquer. Voilà, c'est comme un bonsaï. On coupe des petites feuilles par petites feuilles, tranquillement, on travaille pour que ça soit le plus solide possible.
Merci à vous tous, Merlin Ella, Christian Yumbi, Lydie Dougourou, Stéphane Jégot, merci d'avoir témoigné ici. Nous mettrons sur la page de l'émission les coordonnées de vos restaurants. Nous vous transmettrons bien sûr des nouvelles des uns des autres et célébrerons ensemble le retour de jours plus sereins. N'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à témoigner, à partager, à dire à vos restaurateurs préférés combien vous les aimez. Un grand merci aussi à Georges Abel pour cette interview à Dakar. Merci à Cécile Bonici pour la réalisation de cette émission. À vous, oui, merci de votre fidélité au goût du monde. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous.
Musique du monde.